Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, ce n'est pas une leçon inaugurale, donc je ne vais pas faire une grande présentation, mais je voudrais juste situer cette conférence de Philippe Sansonetti, notre collègue microbiologiste, spécialiste de recherche dans l'immunité vaccinale. Il y a presque 2 ans, c'est le 16 mars 2020, Philippe avait donné ici même, avec un public qui peut être réduit à Madame Meston de Rennes et moi-même, si je me souviens bien, premier jour du premier confinement, une conférence Covid-19 ou la chronique d'une émergence annoncée. Et je pense que c'était la conférence la plus suivie sur notre site web, où Philippe vraiment nous avait permis de commencer à cerner les dimensions de cette pandémie qui nous a frappés de façon brutale et pour laquelle nous étions totalement démunis, pris vraiment à l'improviste, et puis nous ne savions pas ce que l'avenir allait nous préparer. 2 ans plus tard, je ne sais pas si on est beaucoup plus avancé, mais quand même un peu plus, grâce aux vaccins notamment. Et je suis très reconnaissant à Philippe qu'il nous a proposé en fait, de faire le bilan. Comment s'arrête les pandémies, c'est un magnifique titre. Évidemment, on peut l'interpréter, et Philippe va nous montrer comment on peut l'interpréter. Est-ce que cette pandémie va s'arrêter? Et qu'est-ce que ça veut dire, une pandémie qui s'arrête? Ou est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec un virus? Donc, tout cela, Philippe va maintenant nous le présenter. Je voudrais vraiment, au nom de toutes et tous, te remercier d'avoir pris cette initiative de maintenant devant un public qui peut même tomber les masques, nous parler des années à venir. Donc merci beaucoup Philippe et je te laisse la parole.
Merci beaucoup Thomas pour cette très gentille introduction. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions 2 ans plus tard. Je regrette le titre, comment s'arrêtent les pandémies, parce que si les choses étaient aussi simples que ça, on le saurait déjà. Mais il y a peut-être déjà un élément de réponse, c'est le nombre de personnes dans la salle. Ça, c'est ce qu'on appelle un critère sociologique et ça fait partie de la définition de l'arrêt, entre guillemets, des pandémies. Donc je vais essayer fonder ma présentation sur un peu d'historique des pandémies et de voir, au fond, à partir de l'histoire des pandémies, ce qu'on peut retenir et essayer de projeter pour l'avenir de la pandémie présente. Alors, tout d'abord, les pandémies d'hier sont les endémies d'aujourd'hui et les pandémies d'aujourd'hui seront les endémies de demain. C'est pas très optimiste, mais dans l'immense majorité des cas, c'est la situation telle qu'elle se présente. Alors, un petit lexique, quand même, pour qu'on parle tous de la même chose. Une épidémie, c'est l'apparition d'un nombre anormalement élevé de cas d'infection dans une zone géographique limitée, dans un groupe particulier d'individus, éventuellement sur une période donnée. C'est les définitions. Une pandémie, c'est simple, la définition, c'est une grosse épidémie. Alors, ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que les paramètres, les R0, tous ces trucs compliqués qu'on a appris pendant 2 ans, sont pas tellement d'actualité. Une pandémie, ça se prend plus sur des éléments comme, par exemple, c'est un nouvel agent causal, il y a une haute transmissibilité, la propagation est planétaire, elle est explosive, le nombre de cas est élevé. Et puis surtout, on en parlait à l'instant, les conséquences économiques, sociales, globales, sont rapidement préoccupantes. Donc c'est un tout qui effectivement définit cette situation. Alors l'OMS, bien sûr, a une qualification plus technique. On parle d'urgence de santé publique de portée internationale, PHEIC, Public Health Emergency of International Concern. Mais ça dit aussi très bien ce que ça veut dire, et en gros, ça ressemble tout à fait à la définition d'une pandémie. Alors, une endémie, c'est une maladie qui est présente en permanence sur un territoire ou dans un groupe donné de personnes, d'individus. Elle peut toucher très peu d'individus, elle peut même être latente, et puis elle peut, de temps en temps, exploser sous forme d'épidémie de durée variable et touchant un nombre d'individus variable. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'associer endémie à bénignité. On a chaque année 600 000 décès de paludisme sur la planète, surtout des enfants. On a chaque année 1 500 000 décès de tuberculose. On a chaque année 600 000 décès, encore aujourd'hui, de sida sur 37 millions de sujets séropositifs sur la planète. La grippe saisonnière tue chaque année 1 500 000 personnes. Et la dengue, par exemple, dans les régions intertropicales, touche chaque année environ 400 millions d'individus avec 50 000 morts. Ça, c'est des endémies. Donc les endémies, ça n'est pas bénin. Et le fait que notre pandémie va tout doucement, progressivement, se transformer en endémie, fort probablement, ne veut pas dire que la situation sera sereine et que l'histoire sera terminée. Alors, pour prendre un petit peu la métaphore de Charles Rosenberg, qui était à la fois un épidémiologiste, infectiologue et écrivain américain, il a écrit dans les années 80, sur la base de sa réflexion sur les épidémies de choléra et puis surtout sur l'explosion du sida à cette époque, dans cette décennie, qu'au fond, une pandémie, c'était une tragédie, on peut dire, en trois actes. Le premier acte, c'est l'apparition, l'identification. On attend, on est incrédule. C'est ce que dit très bien Albert Camus dans La Peste. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on y croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête, et c'est la réalité. L'acte 2, ceci dit, il y a un intérêt d'emblée. On s'intéresse d'où vient le premier cas, quel est le cas index, on s'intéresse au diagnostic, quel est l'agent causal, on commence véritablement à se conditionner à la situation. L'acte 2, c'est la flambée, c'est l'explosion géographique, et le fait que la population, nous, réalisons l'impact individuel et collectif, à la fois médical, psychologique, social, socio-économique, géopolitique éventuellement. Et puis, c'est aussi la période de la mise en place des mesures barrières, des premiers espoirs de traitement, de vaccins. Et puis, ces choses se concrétisent. Et puis, peu à peu, finalement, la population rentre, si je puis dire, dans cette pandémie, acquiert les éléments principaux. C'est 66 millions de Français épidémiologistes, mais c'est bien, peu à peu, ça induit une attitude collective, pour l'essentiel positive, par rapport à cette pandémie. Et puis, il y a l'acte 3, c'est celui qu'on espère tous, c'est celui du contrôle, de la régression, de l'arrêt de la pandémie. Alors, le problème, c'est que dans cette pièce, l'acte 3, généralement, il est bâclé. Il y a, au fond, une espèce de désintérêt pour la fin des pandémies, parce que c'est fini, on passe à autre chose. Et du coup, que ce soit les spécialistes de santé publique, que ce soit les historiens, que ce soit éventuellement les écrivains, comme Albert Camus, parlent assez peu de la fin des pandémies. Et donc, les références à l'histoire des pandémies manquent un peu de ce côté-là. Il est bien évident que cette métaphore, elle ne tient que si on considère qu'une pandémie, c'est un objet, au fond, à la fois médical, mais aussi un objet sociologique. Alors, qu'entend-on, au fond, il est peut-être temps d'y arriver, par arrêt d'une pandémie. Donc, la pandémie n'étant pas, comme je vous l'ai dit, un concept correspondant à des paramètres épidémiologiques très précis, on a une marge de manœuvre. On peut la définir sur des critères qui sont souvent, à la limite, beaucoup plus perceptibles pour nous-mêmes, pour la population en général, comme étant une période où, au fond, la maladie va perdre de son caractère explosif, va ralentir, sa progression rapide va progressivement diminuer, la morbi-mortalité va diminuer, on va voir un relâchement de la tension, qui était peut-être le moment le plus angoissant au mois de mars, au mois d'avril 2020, sur les hôpitaux, sur le personnel médical. Donc tout ça, au fond, ce sont des éléments qui s'emboîtent peu à peu dans le temps et qui font qu'on va sortir progressivement de la pandémie et éventuellement entrer dans quelque chose d'autre, en l'occurrence éventuellement la phase endémique. Le problème, c'est que, et c'est ce qui fait toute la difficulté, c'est que, au fond, ces dimensions d'arrêt, entre guillemets, qui incluent aussi, donc, comme on l'a dit, à la fois les aspects médicaux et les aspects socio-économiques, psychologiques, et ainsi de suite, ne sont pas synchrones et ne sont pas nécessairement géographiquement homogènes. Donc on est, à l'heure actuelle, vous le voyez bien, peut-être chez nous dans une période de transition, mais dans d'autres pays du monde, on est encore en plein dans la pandémie de Covid, et même dans certaines zones, peut-être en attente de la survenue d'un prochain variant. Donc on est un peu dans la difficulté de donner une espèce de vision globale de la situation, et donc la difficulté d'avoir des décisions de nature sanitaire ou économique homogènes pour l'ensemble de la planète. Quoi qu'il en soit, ça montre aussi, cette période de transition, que la population, au fond, a, comme on dit généralement, entre guillemets, domestiqué la pandémie, ses paramètres, et peut-être aussi maîtriser son stress qui était extrêmement violent au début, dans l'incertitude, et même si, au fond, ce qui s'est passé n'est pas très reluisant, on a fini, je dirais presque malheureusement, mais sans doute heureusement pour notre santé mentale, à s'en accommoder. Alors, à la recherche du troisième acte perdu, j'ai pris comme exemple peut-être le plus beau rapport sur une pandémie, ou une épidémie en tout cas extrêmement sévère, c'est au fond le rapport qu'en fait Thucydide, qui est un écrivain historien grec 460-400 avant Jésus-Christ, dans son livre 2 de l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Soudain, son récit de la guerre s'arrête comme un spot radio dans les news, quelque chose apparaît, et ce qui apparaît, c'est la peste d'Athènes. C'est-à-dire que soudain, Athènes, l'Athènes de Périclès, est frappée par une maladie mystérieuse qui est, à l'évidence, une épidémie. Et le texte, tel qu'il le décrit, est absolument magnifique. Elle apparaît totalement nouvelle. On n'avait nulle part souvenir de rien comme fléau, ni comme destruction de vie humaine. Toutes les formes de médecine ou de religion sont impuissantes. Tout reste inefficace. Pour finir, les Athéniens y renoncèrent, s'abandonnèrent au mal. Magnifique. S'ensuit une description étonnante de l'épidémie. Moi, j'ai mis là le terme hippocratique avec une précision incroyable sur les symptômes. Ça ressemble d'ailleurs, on n'a jamais su ce qu'était la peste d'Athènes. Ça s'appelle peste, mais ça n'était probablement pas la peste. Ça ressemble d'ailleurs au coronavirus, mais bon, ça c'est un autre sujet quand on lit la description clinique. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce récit de Thucydide, qui est devenu une espèce de référence au fil de l'histoire, de la manière de faire un récit d'une épidémie, ne parle pas de la fin de cette épidémie. Ne parle pas de diminution des nombres de morts, ne parle pas des séquelles sociales, physiques, rien. Le seul élément qui nous dit que l'épidémie est terminée, c'est qu'il reprend le récit de la guerre, parce que, de nouveau, Sparte et Athènes se battent. Donc c'est un peu ce désintérêt qui amène à essayer de gratter un petit peu dans l'histoire des pandémies des éléments qui permettent de structurer un petit peu ce troisième acte, parce qu'au fond, tel qu'on est à l'heure actuelle, c'est peut-être celui qui nous intéresse le plus. Alors il y a eu quand même dans l'histoire, et j'en prendrai deux exemples parce que je pense qu'ils sont clés, des éléments de réponse à cette question. C'est-à-dire, quand au moins considère-t-on qu'une pandémie s'arrête ? Et le premier, c'est, je pense, un scientifique anglais qui s'appelle John Grote. En fait, on considère que l'épidémiologie moderne, en tout cas, l'épidémiologie tout court, est née au Royaume-Uni dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le Royaume-Uni était soumis, comme d'autres pays, comme la France d'ailleurs, à des pandémies de peste, de typhus, de variole. Et l'année 1666 avait été terrible, parce que je rappelle que c'était l'année de l'incendie de Londres, qui a perdu tout le centre-ville. Et puis l'année de la peste, 65-66, avec 20% de la population londonienne qui va disparaître. Alors, John Grote, ça faisait pas mal d'années qu'il s'était penché sur 40 ans de registre d'état civil des paroisses, ce qu'on appelle en anglais les bills of mortality. Et en fait, il avait écrit à partir de là un livre qui s'appelait Natural and Political Observations Made Upon the Bills of Mortality, qui est un peu l'essai fondateur de la statistique démographique. Et au fond, avec des applications mathématiques en faisant des règles de 3 sur les dates de naissance, de baptême, sur les dates de décès disponibles. Il avait réussi à reconstituer l'âge des décès et d'en induire l'espérance de vie. Mais au passage, il avait vu des pics sur ces registres et il avait été sans doute un des premiers à rapporter vraiment ces pics de mortalité à des épidémies, en particulier typhus en 1634 et la peste de Londres, bien sûr, en 1666. Et en fait, il en concluait qu'une épidémie s'arrêtait, non pas quand la maladie disparaissait, mais lorsque le niveau de mortalité revenait aux chiffres de ce qu'on appelait les temps normaux. Et en fait, c'est un élément qui est important à double niveau. Le premier, c'est que la mortalité, ce n'est pas uniquement la maladie elle-même, c'est aussi le contexte social. On sait que plus les gens sont pauvres, indigents, plus la mortalité est élevée. Et on l'a vu, encore une fois, se confirmer pendant la période du Covid. Villermé, en France, en 1832, l'avait très bien dit à l'occasion de la deuxième pandémie de choléra. Et donc, cette deuxième élément important qui sort de ce travail, c'est la notion de surcroît de mortalité, qui est devenue un élément essentiel dans le report des données épidémiologiques. Et au fond, si on y réfléchit, quand on regarde ou qu'on essaye de résumer l'impact que peut avoir ou qu'a pu avoir une épidémie ou une pandémie sur la population, comme vous le voyez à droite, le premier chiffre qu'on va chercher, ce sont les chiffres de mortalité, de manière à afficher la gravité, l'importance, l'extension éventuelle de ce drame sanitaire. Alors l'autre temps important, à mon avis en tout cas, c'est la notion dont on vous a rabattu les oreilles pendant 2 ans, d'immunité collective. On ne sait jamais très bien d'où ça vient, cette notion d'immunité collective. Alors, l'immunité collective, c'est lorsque une population a été suffisamment touchée, un pourcentage suffisamment élevé de cas, elle devient immunisée et la circulation du virus ou du micro-organisme pathogène en cause diminue et éventuellement s'éteint, passe en dessous d'un seuil qu'on appelle le seuil épidémique, et c'est représenté sur ce petit schéma avec des couleurs. Et un médecin, un chercheur, épidémiologiste américain, qui s'appelait Wade Frost, en 1920-1930, a vraiment apporté les éléments de base de cette analyse. Il l'a fait avec la diphtérie et la tuberculose, qui étaient en particulier dans les milieux urbains de l'époque un élément très très important. Et donc c'est probablement un des pères de l'épidémiologie modélisatrice. En fait, il divisait les populations en 3 catégories d'individus. Il y avait les personnes qui étaient sensibles à l'infection, S, les personnes infectées, I, et les personnes résistantes, R. Et un pathogène avait un taux de reproduction, c'est la naissance du R0, encore une fois, le nombre de sujets qui vont être infectés par un individu de sujet sensible, S, qui vont être infectés par un individu donné, I. Et au fond, l'épidémie s'arrête, il l'a montré, quand la proportion d'individus tombe au-dessous de la réciproque, qui est 1 sur R0. Et il l'a montré très bien sur ce travail sur la diphtérie, où la diphtérie, on pouvait voir les cas, bien entendu, cliniquement, c'était évident. On pouvait voir le fait qu'ils étaient immunisés parce qu'il y avait cette fameuse intradermo de réaction de Schick. Et donc, ce qu'il a montré très bien, c'est que cette courbe épidémique que vous voyez en cloche ici corrèle parfaitement à la baisse du nombre d'individus S, c'est-à-dire d'individus sensibles à l'infection. C'est là qu'est née cette notion d'immunité collective, qui a été bien entendu ensuite transcrite en immunité collective après vaccination. Donc tout ça est passé finalement maintenant dans le langage courant de l'épidémiologie. Alors, question un petit peu administrative, mais pas uniquement. Qui, au fond, peut déclarer l'arrêt d'une pandémie ? C'est l'OMS. L'OMS est la seule institution de santé globale qui soit en relation avec les ministres de la Santé de tous les pays de la planète et qui les réunit à l'Assemblée mondiale de la santé où, au fond, se gère la coordination de la santé sur la planète. Et donc sa position, elle est certes sanitaire, mais elle est aussi, vous en doutez bien, extrêmement politique, et c'est ce qui fait un peu la force et aussi la faiblesse de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un comité d'urgence qui est officiellement responsable pour la gouvernance globale et la coordination de la réponse internationale à une pandémie, c'est-à-dire que c'est, au fond, l'Organisation mondiale de la santé qui déclare le début et l'arrêt de cette urgence de santé publique de portée internationale qui a été, au fond, mise en place dans la révision du règlement sanitaire international après l'épidémie de SRAS, on y reviendra rapidement, en 2002-2003. Donc ce passage est important parce que cette révision est importante parce qu'elle amène une autre approche ou elle encourage une autre approche de réaction au moment des pandémies. C'est-à-dire ne plus être passif, mais être actif, proactif. Par exemple, passer de l'échelon national, de l'échelon des frontières pour le contrôle, au contrôle local le plus précocement possible lors de l'émergence d'un événement inattendu et initialement incompréhensible. Donc le contrôle des sources, et tout ça est difficile à articuler avec le fait, et on l'a vu pendant la pandémie de Covid, à quel point finalement la réponse sanitaire était quelque chose de régalien. C'était les États qui les prenaient en charge, qu'il était extrêmement difficile de coordonner. Et bien souvent, au fond, avec pas mal de mauvaise foi, les États débarrassent de leurs insuffisances et de leurs échecs en rendant l'OMS responsable de ces difficultés de coordination. Il y a encore clairement des progrès à faire et Covid-19 a montré certainement des points faibles qu'il va falloir par la suite prendre en charge au même titre que d'ailleurs ont été pris en charge les faiblesses et les forces qui s'étaient montrées pendant l'épidémie de SRAS. Alors la décision ou non de déclarer finalement le début ou la clôture d'un état d'urgence internationale, elle n'est pas aussi administrative et bureaucratique que ça. Elle est très importante, c'est un moment extrêmement sensible et qui peut être source de critiques. La déclaration trop tardive d'Ebola en 2014, par exemple. La déclaration trop hâtive de H1N1 en 2009. La clôture trop hâtive d'Ebola en 2016. Tout ça, c'est des événements qui amènent généralement un bashing de l'OMS assez appuyé, en particulier par certains pays, mais qui, quand on regarde dans les détails, montre à quel point les choses peuvent être difficiles. Mais cette déclaration, par exemple, de clôture, elle est importante et elle peut avoir de grandes conséquences, en particulier dans les pays qui sont à faible revenu et à système sanitaire fragile, parce que soudain, ils perdent le bénéfice du soutien international, en tout cas officiel, et de la visibilité internationale de la crise qui les frappe, avec les conséquences sanitaires et économiques et sociologiques que vous pouvez imaginer. Donc ce sont des moments très sensibles qu'il faut très bien gérer. Et lorsque, par exemple, Margaret Chan, à l'époque directrice générale de l'OMS, avait déclaré la fin du PHRI, ici, pour Ebola en Afrique de l'Ouest, en été 2016, les bailleurs internationaux s'étaient retirés assez rapidement et, au fond, beaucoup des actions en cours ont dû être stoppées. Et non seulement les actions de terrain, mais aussi le risque d'une démobilisation au niveau de la recherche. On met en route des recherches sur les traitements, sur les vaccins, et puis ça s'arrête parce que, d'un seul coup, on considère qu'éventuellement, tout ça est du passé. Non, une pandémie, c'est quelque chose d'important, et peut-être plus encore important que la pandémie, ce sont les suites, et il ne faut surtout pas, encore une fois, considérer et risquer de démobiliser. Ça, c'est un message très fort que je voudrais donner. Ce n'est pas parce que ça va mieux que les choses sont terminées, et de toute façon, il y a tellement à apprendre qu'il faut continuer à s'en occuper. Alors, l'arrêt de la pandémie de Covid-19, est-ce qu'on peut faire mieux que la boule de cristal ? C'est pas sûr, mais on essaye quand même. L'arrêt de la pandémie, ça devient de toute façon un thème dominant, sinon on n'aurait pas organisé ce cours, et finalement un espoir pour l'évolution de Covid-19. Alors, son anticipation, j'ai mis ça pour plaisanter un petit peu, mais c'est pas si drôle que ça, elle peut être mercantile. Je ne donne pas de nom de laboratoire de Big Pharma qui fabrique un des grands vaccins actuels, qui a promis que le vaccin serait vendu à prix coûtant jusqu'à la fin de la pandémie. C'est quoi la fin de la pandémie ? Si c'est l'arrêt tel qu'on peut le définir maintenant sur un certain nombre de critères de baisse de la charge émotionnelle, économique, sanitaire, ça peut être très rapide. Et il y a encore 5% de la population des pays pauvres qui n'est pas vaccinée contre Covid. Donc il y a beaucoup d'éléments, j'insiste un peu là-dessus, excusez-moi, mais qui sont importants à prendre en considération. Alors, comment peut-on essayer de se projeter un petit peu ? On peut regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire s'intéresser, bien sûr, aux références historiques de pandémie et tenter, au fond, de calquer Covid-19 sur ce qui ressemblerait le plus sur le plan épidémiologique, virologique, immunologique à des maladies qui se sont développées dans le passé, des pandémies développées dans le passé et sur lesquelles on a suffisamment d'éléments pour analyser, avec les réserves que j'avais mises sur le troisième acte, des éléments importants qu'on peut prendre en considération. Et puis, il y a bien entendu un autre pôle, qui est le pôle de la modélisation mathématique, des projections qui se développent et qui s'est développée de façon majeure au cours de cette pandémie de Covid-19. Vous avez tous entendu parler des projections de l'Institut Pasteur qui ont servi largement au comité scientifique à conseiller le gouvernement pour sa stratégie de contrôle de la pandémie. Donc il y a des courbes de décroissance pandémique qu'on essaye d'établir, ces fameuses downward epicurves. Voilà, mais ça reste quand même de la modélisation, ça permet de bâtir des scénarios, mais ça ne donne pas la vérité absolue sur la suite de la situation. Et au fond, il est probable que une manière de se projeter, c'est quand même de combiner un petit peu tout ça pour essayer d'en faire un tout. Alors, un beau modèle, si je puis dire, c'est la grippe. C'est ce que j'appelle toujours dans mes cours la mère des pandémies. Il y a eu 11 pandémies grippales depuis le XVIIIe siècle, avec des intervalles interpandémiques qui varient. Minimum 8 ans, entre 1781 et 1789, on a assez de références historiques pour voir quand même que ça ressemblait drôlement à la grippe. Maximum 42 ans entre 1847 et 1889. C'est intéressant. D'ailleurs, vous voyez sur cette courbe-là, qui est de la grippe, enfin en tout cas la surmortalité liée probablement à la grippe au Royaume-Uni, au Pays de Galles. Vous voyez qu'entre 1847 et 1889, il y a une espèce de plat. C'est-à-dire qu'il n'y a probablement même pas de mortalité très visible de la grippe saisonnière. Et puis d'un seul coup, brutalement, apparaît un grand pic en 1889, qui est ce qu'on a appelé la grippe à l'époque asiatique ou la grippe russe. Probablement la grippe, mais pas absolument certain. Certains pensent que ça ressemblait peut-être à une infection comme Covid, comme SRAS. En tout cas, ce qu'on voit très nettement sur cette courbe d'emblée, c'est qu'il y a une période avec plusieurs pics entre 1889 et 1891, trois pics avec des gravités différentes. On a l'impression que la maladie circule un petit peu, mais c'est interplanétaire. Hein. Et puis, ça se calme un tout petit peu, puis hop, ça repart et on a de nouveaux pics jusqu'à peu près en 1900 et des pics de mortalité assez élevés. Et c'est là qu'on commence à se dire, est-ce que c'est vraiment la grippe ? Est-ce que ce n'était pas autre chose, des variants, type ce qu'on peut voir dans les infections à coronavirus maintenant, chez l'animal et chez l'homme ? On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas d'archéovirologie disponible pour essayer de retrouver, on a dit H3N8, mais on n'a pas de certitude du tout. Peut-être donc corona. Et puis, il y a la reine des pandémies, bien entendu, qui est la grippe espagnole, qui va se développer à partir de 1918 et durer jusque, en tout cas, on le dit habituellement, l'été de 1919, mais on va revenir là-dessus parce que c'est un point important. Et puis, cette succession de pandémies régulières en 1957, en 1968, un petit peu en 1977, en 2009. Donc, ces intervalles pandémiques variables. Mais vous voyez, un peu 40 ans entre 68 et 2009, on est à 41 ans. On est dans ces intervalles dont on ne sait pas du tout la nature de la rythmicité, l'horloge biologique derrière ça, mais c'est comme ça. Donc, voilà un peu le profil qu'on peut prendre un peu comme référence d'emblée pour ce que pourrait devenir la pandémie de Covid-19. Alors, Cette pandémie de grippe espagnole, sans rentrer dans les détails, elle a quand même causé 50 millions de décès, on parle même de 100 millions. Le virus responsable, c'était un sous-type d'une souche aviaire A, H1N1, hémagglutine 1, neuraminidase 1, bien gardé en tête, hein, c'était H1N1. Passage direct oiseaux, essentiellement les oies sauvages qui sont les porteurs principaux de ce genre de virus, éventuellement les canards, mais soit passage direct à l'homme, une vraie grippe aviaire, soit passage par un intermédiaire porcin, on ne sait pas encore. En tout cas, le résultat n'était pas brillant. Au fond, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est le virus. Parce que par un travail formidable au début des années 2000, un certain nombre de chercheurs, en particulier aux États-Unis, ont réussi à reconstituer le virus H1N1 de la grippe espagnole à partir de cadavres conservés dans le pergélisol, dans le permafrost, à partir de coupes histologiques de patients, de soldats en particulier, qui étaient décédés dans les camps en 1918 aux États-Unis de cette grippe espagnole, et de voir en fait que voilà, on a ce virus. Et ça sert au fond de référence à l'évolution, et vous allez voir l'importance que ça peut avoir. Ce qui va être très important dans cette épidémie de grippe espagnole, et vous voyez sur la courbe en bas, c'est que d'habitude, la grippe en termes de mortalité, en particulier la grippe saisonnière, c'est une courbe en U, c'est-à-dire c'est assez létal chez les enfants et bien entendu très létal chez les personnes âgées. Là, ce qui était bien particulier, j'ai mis une flèche rouge, c'était ce W, en fait, et cette courbe de mortalité très importante chez les adultes jeunes. Et ça a beaucoup frappé la population. C'était entre 20 et 30 ans. Donc il y a eu, au fond, une très forte mortalité qui était tout à fait inhabituelle et assez effrayante au démarrage par rapport à ce que les gens avaient comme expérience, finalement, de la grippe. Il y a eu deux vagues, une en septembre-décembre 1918, qui a été la plus meurtrière, en tout cas en France, et une en mars-mai 1919. On pense qu'elle a touché 500 millions d'individus sur la planète. À l'époque, il y avait 1,5 milliard d'habitants sur la planète, en gros. C'est-à-dire un tiers de la planète, et le taux de reproduction était de 1,8, pas mal, mais au fond moins que Covid, heureusement d'ailleurs, sans doute, et un taux de mortalité par contre élevé dans certaines régions, 10 à 20%, imaginez si Covid avait fait une mortalité pareille, en particulier dans certains pays d'Amérique du Sud, en Asie, l'Inde, on dit que peut-être il y a eu 20 millions de décès en Inde, donc quelque chose, un traumatisme absolument énorme. Plutôt moins dans les pays, disons, occidentaux, 2 ou 3 %. En gros, il y a eu 250 000 décès en France, encore qu'on sortait de la guerre, il y avait la censure militaire. Je pense qu'en particulier dans les armées, beaucoup de cas ont été cachés et on était sûrement au-dessus de ça. L'autre problème qui a fait la gravité, c'est que ces patients se surinfectaient, faisaient des pneumonies bactériennes et qu'il n'y avait pas d'antibiotiques à ce moment-là. On était 10 ans avant et sans doute une grosse partie de la mortalité a été liée à ces surinfections microbiennes. Alors, après, se pose la question, où est partie la grippe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et au fond, la sortie de pandémie, on la fixe généralement à l'été 2019, mais ce n'était sûrement pas un arrêt brutal. Il y a eu une incidence soutenue jusqu'en 1922, avec clairement des bouffées épidémiques à la fois aux États-Unis, en Europe et sans doute ailleurs. Alors, pourquoi elle s'est arrêtée quand même à un moment, cette pandémie, pour se transformer, on va le voir, en une forme endémique tout à fait passionnante? Bah, premièrement, c'est l'immunité collective. Le R0 à 1,8, ça vous donne un taux d'attaque d'infection nécessaire pour obtenir l'immunité collective qui est aux alentours de 44%. Donc, au fond, on était à 30 ou 40% de la population mondiale, évaluation minimale infectée. On était sans doute arrivé assez proche de la notion d'immunité collective. Le deuxième élément, c'est probablement la modification du virus, de mutation, un variant viral, avec une plus faible virulence. Et il y a une courbe très très intéressante qui a été faite à Wrocław, enfin c'est Breslau en Pologne, entre 1918 et 1922. et vous retrouvez 1918, c'est en haut, au milieu, c'est 1920, en bas, en bleu, c'est 1922. Et vous voyez que cette courbe, qui initialement est en W, devient, poussée après poussée, une courbe en U standard. C'est-à-dire que manifestement, la virulence de ce virus influenza H1N1 a diminué. Alors, est-ce sa virulence intrinsèque ? Peut-être. On n'a malheureusement pas, contrairement à cette souche initiale qui a été reconstruite et séquencée, des variants isotypiques suivants. Il faut absolument travailler sur l'archéovirologie de tout ça. Mais aussi peut-être cette immunité collective. Donc il est très très difficile de trier au fond, et c'est probablement l'association des deux qui a permis de sortir de cet épisode tout à fait dramatique. Et puis peut-être il faut dire autre chose, et j'ai insisté au début sur la dimension finalement sociale, sociologique de la pandémie. C'est aussi parce que la société a décidé qu'elle devait s'arrêter de cette pandémie, que cette pandémie, je dirais, s'est arrêtée. Au fond, pour les populations européennes, ça a été presque une scène supplémentaire au dernier acte de la Première Guerre mondiale, qui avait été un traumatisme épouvantable, qui avait généré une résilience importante dans les populations. Et on pourrait presque se dire, après tout, un peu plus, un peu moins, est-ce que ça a fait véritablement une grosse différence pour les populations ? Et en France en particulier, il y a eu, peut-être à cause, encore une fois, du traumatisme de la guerre, un certain fatalisme à cette pandémie, même si on a été choqué par, encore une fois, la mort de beaucoup de jeunes, y compris de jeunes artistes, poètes, écrivains. La population s'en est pas excessivement préoccupé, ce qui est tout à fait étonnant. Et j'ai retrouvé dans un extrait d'un journal de février 1919, on sortait de la première vague, quand même théoriquement assez dramatique, où le journaliste écrivait « Le public dans son ensemble est plutôt réfractaire au port du masque parce qu'il craint d'être ridicule avec ce masque sur le visage ». Ça vous rappelle quelque chose. Alors, il y a eu quelques efforts assez héroïques pour faire mettre des masques aux Parisiens. Vous avez un exemple à gauche avec des arguments un peu discutables. Les Américains aussi ont eu énormément de mal, même s'ils se montrent beaucoup en photographie avec des masques. C'était pas si facile que ça. Alors eux, c'était la version américaine, c'est-à-dire si vous mettez pas les masques, vous irez en prison. Mais bon, voilà, il y a eu une approche sociologique intéressante. Mais moi, la société n'en pouvait plus, et c'était le temps de passer à autre chose, et c'était les années folles, et au fond. Cet arrêt de la pandémie, ça s'est enterré dans un bruit de fond général, probablement. Ce que je voulais dire aussi, parce que ça, c'est un peu mon dada, c'est important d'y revenir, c'est qu'il y avait de la grippe espagnole encore à Paris en 1920, mais en 1920, à Paris, il y a eu une épidémie de peste, la peste des chiffonniers, dans les faubourgs à Clichy. En 1920, en France, il y a 4000 enfants qui sont morts de diphtérie. En 1920, en France, il y a 85 000 patients qui sont morts de tuberculose. Alors bon, la mortalité infantile, elle était encore à plus de 100 pour 1000. Plus d'un enfant sur 10 mourait dans la première année. Bon, la grippe espagnole, en plus, en moins, est-ce que ce n'était pas du bruit de fond, finalement, par rapport à ce que j'avais appelé dans mon livre, il y a 4 ans maintenant, ou 5 ans, la vie au temps des maladies infectieuses. C'était une autre époque, et on l'a sans doute beaucoup oublié. Donc là, on était entré dans, au fond, sans le savoir, peut-être progressivement, dans la transition entre la pandémie et l'endémie, parce que, bien sûr, endémie, il y a eu. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que très brièvement, lorsque les collègues anglais virologues du Medical Research Council à Londres, enfin Mill Hill, ont découvert, en 1933-1935, c'est Laidlaw, Andrews et Wilson Smith, ont découvert le virus de la grippe, ont montré d'ailleurs au passage que les furets immunisés étaient protégés, donc on pouvait à terme développer un vaccin. Le virus qu'ils ont découvert, c'est le virus H1N1, c'est celui de la grippe espagnole, éventuellement avec quelques mutations successives qui expliquaient ces pics épidémiques, puisqu'ils avaient sélectionné ces échantillons à partir de malades qui étaient finalement sous le régime déjà établi de grippe saisonnière avec le virus H1N1 qui avait été le virus cause de la pandémie de la guerre de 14-18. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir cette notion de drift antigénique, c'est-à-dire que tout doucement, les sérotypes à la fois de l'hémagglutinine et puis de la neuraminidase, qui sont les deux antigènes principaux de la surface du virus de la grippe, bougeait tout doucement, ça ne remettait pas en cause le sérotype parce que ça ne changeait pas massivement l'antigénicité, mais suffisamment pour que l'immunité établie soit insuffisante et qu'il faille éventuellement se reconstituer une immunité l'année suivante, chose qu'on a faite à partir du moment où on a eu un vaccin. Donc, ce passage, finalement, cette sortie, cet arrêt de la pandémie, s'est traduit en la mise en place d'une situation endémique marquée par une grippe saisonnière où, au fond, la plasticité du génome du virus de la grippe aide à cette évolution. Alors, si on regarde un petit peu les choses, ce schéma, il est important parce que ça vous donne vraiment l'historique de la grippe sur le XXe siècle. On a la grippe espagnole, c'est H1N1, le virus qui va rester jusqu'en 1957. Jusqu'à la pandémie de grippe asiatique de 1957. Alors, bien sûr, sous forme d'une rythmicité saisonnière, avec des modifications, mais néanmoins reste un vrai sérotype H1N1. Et puis, brusquement, il y a une cassure. Il y a cette pandémie de grippe asiatique en 1957, et on voit apparaître un nouveau sérotype, qui est le sérotype H2N2. On va revenir là-dessus, c'est très intéressant. Et puis, en 1968, ça s'arrête brutalement et il y a un remplacement par une souche pandémique, c'est la grippe de Hong Kong, qui est un sérotype H3N2, cette fois-ci. Et puis, en 1977, il y a un épisode de ce qu'on a appelé la grippe russe, qui, en fait, est la réapparition de H1N1. Alors, on pense que c'est un accident de laboratoire, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne veux pas aggraver nos relations avec la Russie, mais il s'est passé quelque chose. Et du coup, on se retrouve avec deux sérotypes qui deviennent saisonniers, H3N2 et H1N1. Et donc les choses évoluent comme ça jusqu'à 2009, l'apparition d'un nouveau H1N1 qui est relié au H1N1 de la grippe espagnole, ça conservation de ce qui code l'hémagglutinine, par exemple, est très, très impressionnante. Et donc, quelque part, il a dû circuler, éventuellement dans un réservoir porcin, mais il ressort à ce moment-là sous forme de grippe porcine. Donc, vous voyez, c'est un peu par la plasticité génétique, on commence à expliquer ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est fascinant parce que le virus H1N1, c'est une espèce de si vous voulez, de squelette initial, le virus de la grippe, il y a 8 segments d'ARN qui codent pour les différents éléments, y compris, bien sûr, l'hémagglutinine et la neuraminidase. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, à partir de souches aviaires, probablement, généralement, dans un système intermédiaire qui est le porc, dans l'intestin du porc, des réassortiments ou dans le poumon du porc, des réassortiments qui font que certains segments vont s'échanger. Et de H1N1, on passe à H2N2. Mais c'est toujours le squelette de base, le châssis central, si vous voulez, de H1N1. Et puis H2N2, il va se réassembler pour 1968 et il va devenir H3N2 par un nouveau réassemblage. Mais c'est toujours, finalement, la trace génétique et évolutive du virus de la grippe espagnole. Donc, j'insiste là-dessus, j'en suis désolé, parce que je pense que, même si les mécanismes sont différents, puisque le processus de modification des coronavirus, par exemple, il n'y a pas de segment, c'est un génome intégral, mais néanmoins, il y a des mutations, bien sûr, et peut-être trop, ressemble à des mécanismes quand même qui font finalement assez proches et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. Alors, est-ce que toutes les pandémies se transforment en endémies avec une sorte d'évolution telle que je vous l'ai décrite là ? La plupart, oui, mais non, il y a des exceptions. Et il y a trois exceptions principales. qui ont été obtenues avec des campagnes intensives de vaccination planétaire. C'est la variole, la campagne de l'OMS, supervisée en tout cas par l'OMS de 1969 à 1979. C'est la poliomyélite de 1988 à 2021, sont ces campagnes d'éradication, d'élimination de ces virus. Alors, éradication, c'est on fait disparaître la maladie et le pathogène. Le pathogène n'existe plus. L'élimination, c'est le maintien de la maladie, mais sous le seuil épidémique, seulement le virus en cause continue à circuler. Ça, c'est important. Et puis, la peste bovine. Alors, la peste bovine, c'est chez les animaux, mais à chaque fois qu'on dit les succès de l'éradication pour l'OMS, nos collègues vétérinaires nous disent « Ouais, mais vous oubliez toujours la peste bovine, la FAO et l'OIE. » Donc, la peste bovine est la troisième maladie infectieuse des mammifères qui a été éradiquée par la vaccination. Et puis, il y a une exception qui a été obtenue, on y reviendra rapidement, par des mesures sanitaires très strictes, associant diagnostic, identification et des contacts et isolement, c'est le testé, tracé, isolé, c'est le SRAS en 2002-2003, on va en reparler. La saga de l'éradication de la variole, c'est intéressant, d'abord parce que ça a éradiqué la variole, ce qui n'était pas une mince affaire, mais c'est aussi parce que c'est un modèle important pour savoir si on peut ou non éradiquer une pandémie. Donc en 1959, l'Assemblée mondiale de la santé vote le projet d'éradication de la variole au niveau mondial. C'était en fait l'extension de campagnes d'éradication qui avaient déjà commencé depuis le 19e siècle en Europe et assez rapidement aussi aux États-Unis, avec des résultats encourageants, en tout cas sur l'élimination en cours de la maladie. Mais la notion d'éradication, c'était presque de l'utopie à ce moment-là quand ça a été lancé. Parce qu'il fallait toucher toutes les populations, et en particulier les populations des pays les plus défavorisés qui payaient très très lourd à la maladie. Au début des années 60, quand cette grande campagne d'éradication a été envisagée, il y avait encore 15 millions de cas annuels et au moins 2 millions de décès dus à la variole sur la planète. C'est hier, hein, et les chiffres étaient largement sous-estimés. Donc l'OMS lance la campagne de vaccination de masse, j'insiste sur le terme, vaccination de masse, on vaccine tout le monde. Et puis, c'est bien, le calcul initial indiquait qu'il fallait 80% de couverture vaccinale parce que le R0 était à 4, mais à partir de 1967, ça commence à patiner un petit peu, et on s'aperçoit que beaucoup de pays n'y arrivent pas. Il y a 30 pays qui n'arrivent pas à ce résultat parce que les systèmes sanitaires ne sont pas. Et on change complètement de paradigme. C'est Donald Anderson, un épidémiologiste américain, qui va être important là-dedans. Et au lieu de la vaccination de masse, on fait ce qu'on appelle une surveillance endiguement. C'est-à-dire qu'on va identifier les cas cliniques, identifier les contacts et vacciner en anneaux les contacts autour de chaque cas clinique. C'est-à-dire qu'on ne vaccine plus tout le monde, c'était impossible. On repère, on isole et on vaccine les contacts. Et c'est ça qui va permettre finalement de terminer cette campagne avec succès et on déclarera que le monde est libre de variole en 1979, 1980, c'est l'OMS, bien entendu, qui va le déclarer. Alors voilà un peu le modèle de cette vaccination en anneau. On repère un cas clinique, et puis on prend ses contacts immédiats, on les isole, on les vaccine, et puis on avance un petit peu, on prend le plus de cas possible, et finalement on a étouffé la maladie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de prérequis qui n'existent pas dans d'autres situations. D'abord, il n'y a pas de réservoir viral extra-humain, ce qui était le cas pour la variole. Deuxièmement, pas de forme infraclinique, pas de portage asymptomatique. On pouvait les voir, les patients, et on pouvait les isoler et isoler leur cas contact sans difficulté. Vaccin très efficace, parfois même un petit peu mal toléré. C'est pour ça qu'on a eu de cesse que, quand l'éradication a été véritablement confirmée, d'arrêter cette vaccination. Et puis, pas ou peu, c'est un virus ADN de variation génétique tel qu'on la voit chez la grippe ou chez le coronavirus, par exemple. Et c'est intéressant parce que cette méthode, elle a été reprise en 2015 pour terminer l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, qui était partie sur un mode pandémique, puisqu'elle touchait trois pays, la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée, Conakry, mais très vite le Sénégal, le Mali, des pays voisins, et puis il y a même eu des métastases très sporadiques en Europe et aux États-Unis. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui se préparait, et les mesures locales de contrôle physique, de diagnostic, d'isolement des patients et éventuellement de leurs contacts n'étaient pas suffisants. En plus, les conditions locales, malgré tous les efforts, étaient quand même limitées. Et il a fallu vacciner, ça a été un choix, par la méthode de la vaccination en anneau, plus les vaccins, la vaccination des personnels de santé pour arriver à terminer cette épidémie d'Ebola. Mais ou pandémie presque d'Ebola, mais on sait que comme le réservoir est un réservoir animal, chauve-souris, les grands singes, on n'a pas éradiqué Ebola, contrairement à l'éradication de la variole, parce qu'il y a justement un réservoir animal. Donc vous voyez un peu les éléments qu'il faut prendre en considération pour ne pas se lancer dans des utopies d'éradication qui sont difficiles à ensuite assurer. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la polio. Je vais passer très très rapidement. La polio, le résultat de la vaccination polio, quand le vaccin est apparu dans les années 60 sur une population, en particulier aux États-Unis et en Europe, qui était traumatisée par la poliomyélite, c'était la maladie de l'époque, parce qu'elle touchait les jeunes enfants, les adolescents, elle laissait souvent des séquelles fonctionnelles absolument terribles. Donc les gens se sont fait vacciner par le vaccin de Jonas Salk, le vaccin inactivé, essentiellement dans les pays aux États-Unis et dans les pays européens, mais aussi à l'échelle de la planète, par le vaccin Sabin, c'est-à-dire un vaccin vivant atténué qui avait le mérite d'induire une immunité muqueuse très très importante et très efficace. Et à partir sur ces bases, à partir de 88, l'OMS a décidé, avec une coalition internationale, le Rotary, l'UNICEF, la Fondation Gates et toute une série de donateurs, y compris Mandela qui est rentré dans la danse en 1996, une grande campagne d'éradication mondiale de la poliomyélite qui finalement a réussi grâce essentiellement au vaccin Sabin, c'est un vaccin vivant atténué, le vaccin polio-oral, et qui a permis de dire en 2020, par exemple, que l'Afrique était libre de poliomyélite. Donc ça, ça a été aussi un grand succès. Il y a encore quelques petits doutes sur Pakistan, Afghanistan, malheureusement difficile à vérifier, mais il semble que globalement les trois sérotypes soient virtuellement éradiqués. Et en Afrique, ce qu'on voit actuellement, c'est des polios vaccinales. Il y en a une sur un million. Et donc, ça se posait à terme l'arrêt de la vaccination polio. Donc ça, c'est aussi un succès, mais quand je vous mets la petite étiquette bleue, 1988-2020, 32 ans pour éradiquer sur la planète, et au fond, si on met tout bout à bout, 65 ans pour éradiquer une endémie, ou ce qui était initialement une pandémie. Donc vous voyez que c'est quand même pas des choses si simples, il ne suffit pas de dire, il n'y a qu'à, on a un vaccin, ça va marcher. Alors, l'autre aspect sur lequel je vais aller très rapidement, mais quand même ça a été un point d'orgue dans la perception des pandémies, c'est le SRAS. 2002-2003, hiver 2002 jusqu'en juin 2003, un coronavirus, c'est pour ça que j'avais appelé ma première leçon chronique d'une émergence annoncée. Il y a plusieurs points qui émergent de tout ça, si on peut dire. Premièrement, ça a été la réalisation de notre fragilité à l'échelon planétaire parce que le virus est parti de Chine du Sud, est allé à Hong Kong et à partir du hub aéroportuaire de Hong Kong s'est diffusé en une nuit dans une quinzaine ou une vingtaine de pays de la planète. Fragilité terrible qu'on n'avait pas encore tout à fait perçue jusqu'à présent. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point important, ça a été, bon, il y a eu 8000 cas en tout, environ 800 décès, pas énorme, mais qui montre que la maladie s'est arrêtée, qu'on a pu l'arrêter. Donc on peut, dans certaines circonstances, arrêter une pandémie en train de se constituer. Mais surtout, le personnel médical a été très touché. 20% des cas de SRAS ont été des personnels médicaux, médecins, infirmières, personnels dans les urgences. Et ça, c'est des éléments qu'il faut savoir et que peut-être on a un peu négligé quand même quand Covid-19 nous est tombé sur la tête au mois de février 2020. On savait la fragilité des personnels, en particulier à ces infections hospitalières à coronavirus. Et puis, le troisième point important, ça a été qu'effectivement, on pouvait contrôler, et ça a été vraiment le triomphe du tester, tracer, isoler. Mais, encore une fois, c'est un peu comme pour l'éradication, il y a eu des conditions. Et ces conditions, en fait, permettent de regarder en miroir Covid-19. Le SRAS, c'était véritablement une maladie où les gens n'émettaient qu'en toussant au pic de l'infection, quand ils avaient beaucoup de fièvre et qu'ils n'allaient pas bien du tout. Donc, en général, ils étaient isolés et essentiellement hospitalisés. Pour ça, d'ailleurs, c'est les médecins et les infirmières qui ont été beaucoup contaminés. Mais dans les cinq premiers jours, là, en période d'incubation, ils n'émettaient pas de virus. Et c'est pour ça que les courbes, les modélisations, ont permis de montrer qu'en testant, traçant, isolant, à la fois les patients et les cas contacts, on pouvait contenir l'infection et en fait, elle s'est éteinte d'elle-même. Ce qui était quand même tout à fait extraordinaire, alors que vous savez que pour Covid-19, malheureusement, le fait que les patients, certains ne sont même pas patients d'ailleurs, ils sont juste infectés, ils ne le savent pas, émettent du virus très tôt avant qu'éventuellement des symptômes ne surviennent, fait que ce genre d'approche a été plus difficile à mettre en place. Alors néanmoins, je voudrais très rapidement, juste pour vous expliquer un petit peu certaines stratégies différentes selon les pays, dire un mot de Nan Shanchong. Nan Shanchong, c'est un professeur de pneumologie à Guangzhou, à Canton, en Chine, et c'est celui qui a observé les premiers cas dans sa région, en tout cas dans son hôpital, d'infection qui allait être connue comme le SRAS, donc à SARS-CoV. Et contrairement à ce que le CDC chinois, le Centre des maladies, de contrôle des maladies chinois, disait, et que disaient un certain nombre de pneumologues, en particulier les grands pompes de Pékin, disaient que c'était une pneumopathie bactérienne, un rickettsie, qu'il suffisait de donner des antibiotiques et que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Lui a compris que c'était autre chose et a mis en fait sur la voie de la découverte du virus du SRAS, du coronavirus, mais en même temps il a mis en place une méthode, celle dont on a parlé, de tester, tracer, isoler, extrêmement efficace puisque vous avez vu que à la fois en Chine où les choses commençaient vraiment à se gâter et à l'échelle de la planète, ça a permis de contrôler cette pandémie en puissance. Et quand Covid-19 est apparu à Wuhan et dans la région du Hubei, il y a eu ce même flottement initial, et c'est ce même Nan Shanchong qui a dit « Attention, ça ressemble au coronavirus », et tous les épidémiologistes de la Terre commençaient à le flairer, et a réussi à convaincre, avec beaucoup de difficultés, vous connaissez l'histoire, les autorités qu'il fallait absolument tester, tracer, isoler. Mais il a fallu le faire à l'échelle de Covid, qui est beaucoup plus difficile que SRAS, bien entendu, et à l'échelle de populations énormes comme des villes comme Wuhan de 10 ou 11 millions d'habitants. Donc il a été à l'origine de cette stratégie Covid-0 qu'a mis en place la Chine, qui est une stratégie impitoyable de contrôle aux frontières, d'isolement pendant 3 semaines, je le sais, j'y passe régulièrement, de diagnostic dans la population et d'isolement éventuellement d'un immeuble, d'un quartier ou de l'ensemble de la ville. Et donc, quelque chose qui est efficace, puisque la Chine est pas loin d'être en situation de Covid-0, mais d'une fragilité pour l'avenir, qu'on a un petit peu de mal à évaluer parce que quelle va être la durabilité ? La Chine va-t-elle rester isolée comme ça pendant des années, des décennies, alors que ce n'est pas très bon ni pour eux ni pour nous, ça c'est clair. Qui va avoir le courage de revenir là-dessus? Est-ce que la population qui est vaccinée par un vaccin dont on n'est pas sûr qu'il soit aussi performant que ceux dont on a bénéficié est-elle véritablement protégée? Il y a beaucoup d'inconnus qui font que, en fait, ça remet un petit peu au début ce que je disais, la complexité de dire on est en arrêt de pandémie parce que, au fond, ça s'arrête de façon différente, à des temps différents, dans des endroits différents, sous un mode de contrôle, au fond, différent, étant bien entendu que même si l'Europe avait pu faire un peu plus de tester, tracer, isoler, ça aurait sans doute amélioré la situation et dissous un certain nombre de clusters, mais de là à faire supporter à nos populations ce que supporte la population chinoise et les étrangers visiteurs, c'est absolument difficile à imaginer. Donc, simplement pour dire que, en dehors de ces exceptions magnifiques, le reste des pandémies sont devenues des endémies, et j'en ai mis une liste là que vous pourrez consulter éventuellement. Alors, on maintient les choses comme on peut, avec de la prévention, avec des traitements, avec des vaccins pour certaines d'entre elles, mais malheureusement, il faut s'habituer à vivre avec. Et un des plus beaux exemples, très rapidement, c'est la rougeole. La rougeole, on a essayé de l'éradiquer. C'était écrit par l'Organisation mondiale de la santé. Mais la rougeole a un R0 de 12-15, ce qu'il faut donc vacciner 95% de la population, ce qui n'est pas facile. Et on a vu que malgré les politiques sanitaires, en France, par exemple, dans 2008-2011, on a eu des pics de rougeole assez importants avec des décès d'enfants. Donc la situation reste un petit peu instable et quand on regarde la situation dans le monde, on est encore loin d'une, certainement pas d'éradication parce que les critères n'y sont pas, et même d'élimination, on sent bien que les choses évoluent, qu'il a fallu sévir, il a fallu rendre le vaccin, les vaccins de l'enfance obligatoires pour remonter la couverture vaccinale et casser ces épidémies. Donc le virus, il circule à bas bruit, sous le seuil épidémique, mais il est là, et dès qu'on relâche un petit peu, ça repart, et on a vu par exemple au Venezuela la diphtérie repartir avec la crise économique depuis 2015, alors qu'on pensait que même le bactérie, avec le phage qui code la toxine, avait disparu de la circulation. Donc, est-ce qu'on peut finalement parler, et je terminerai là-dessus, de l'arrêt de la pandémie de Covid-19? Alors, c'est une question qui est extrêmement délicate et je l'aborde vraiment en marchant un peu sur des œufs. Ma réponse, c'est clairement oui. Je pense que c'est une perspective raisonnable. En France, dans les pays occidentaux, surtout si on se réfère à la définition que je vous ai donnée, les données épidémiologiques, les données de modélisation, les données de niveau vaccinal qui est très élevé dans nos régions, la diminution de la pression sur les hôpitaux, la reprise économique, la domestication de la pandémie par la population, tout ça veut dire qu'on est rentré probablement d'ores et déjà, et le nombre de personnes dans cette salle nous montre qu'on est rentré déjà dans une période de transition, mais de transition probablement vers une endémie qu'il va falloir maintenant définir un petit peu mieux. Donc est-ce que pour autant c'est la fin? Non, et puis ce n'est pas encore le cas dans beaucoup de régions du monde, d'autres zones de la planète. Et puis des questions, je n'ai pas le temps de rentrer, mais continent africain, très énigmatique, finalement pas autant martyrisé par cette pandémie que les pays du Nord, avec peut-être l'exception de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe? 74% des Africains, ce que je vois avec mes collègues à Bangui, en République centrafricaine, sont positifs alors qu'ils ne sont pas encore vaccinés. Et 10% racontent une histoire de rhinopharyngite. Donc il y a une énigme africaine. Je dis ça parce que ça va être important de le prendre en compte pour les stratégies de vaccination en Afrique. Peut-être il ne faut pas aborder les choses telles qu'on les a abordées dans les pays du Nord jusqu'à présent. Et c'est à nos collègues africains qu'il faut donner la parole, bien entendu, et on ne peut pas leur imposer. Alors, est-ce que c'est la fin de Covid-19? Non, parce que la situation reste quand même instable, hétérogène. Au niveau sanitaire international, il y a un très faible taux de couverture, encore une fois, dans pas mal de pays. Et puis non, si on se réfère à l'histoire des pandémies, et en particulier aux caractéristiques de SARS-CoV-2, dont le devenir, quand même, semble se rapprocher passablement de ce qu'on a vu, et je vous ai décrit pour la grippe espagnole. Donc l'OMS n'est pas prêt de siffler la fin de l'urgence de santé publique de portée internationale. Alors, à quoi pourrait ressembler Covid-19 endémique ? À quoi, j'espère, va ressembler, pour essayer de clarifier un petit peu les choses ? Comment on peut envisager la période à venir ? Certainement pas retrouver le monde d'avant, ça c'est clair. Donc, comment vivre avec Covid-19 ? Je crois qu'il faut se faire, pour l'instant en tout cas, à cette idée, il faut vivre avec le virus. Donc, le modèle de sortie de la grippe espagnole nous a donné un certain nombre de pistes éventuelles que j'ai essayé de vous décrire sur la circulation de SARS-CoV-2, la possibilité d'essayer, avec la vaccination en particulier, de garder sous un seuil épidémique, mais ces sorties de variants comme Omicron, avec des performances de transmissibilité très très importantes, qui vont au-delà des capacités du vaccin, en tout cas pour l'immunité nasale et bloquer la circulation, mais qui en même temps sont moins graves. Donc est-ce que c'est une évolution, une coévolution virus-humain ? C'est tout à fait passionnant, mais on peut imaginer qu'effectivement, on va se retrouver avec cette souche de coronavirus évoluant, avec des mutations qui vont donner lieu éventuellement à des pics épidémiques qui correspondront peu à peu, avec de la saisonnalité, à ce qu'on a vu s'installer avec la grippe H1N1 suite à la grippe espagnole de 1918-1919. Mais malheureusement, dans cette ambiance-là, on n'est pas à l'abri de l'émergence d'un variant beaucoup plus drastique qui serait un peu imprévisible sur le plan à la fois de son échappement antigénique à la vaccination et plus éventuellement virulent. On sait maintenant qu'il y a la possibilité pour les personnes immunodéprimées d'être plutôt sujettes à portant chroniquement ce virus, de permettre l'émergence de variants. Donc ça, il faut les vacciner de façon extrêmement soigneuse. On sait qu'il y a peut-être des réservoirs animaux, en particulier chez les muridés et les mustélidés, qui commencent à se constituer. On a vu l'épisode des visons danois, et ce n'est pas une blague, c'est important. Et peut-être la pression sélective chez ces animaux n'est pas exactement la même que chez l'homme. Donc on peut avoir des remises en cause, et on ne peut pas absolument éliminer la possibilité d'une reprise pandémique avec un variant qui aurait véritablement, alors on dit pas subi un drift, qui sont des variations mineures telles qu'on continue à voir en ce moment, mais un vrai shift avec l'apparition d'un changement immunologique tel que le vaccin n'est plus actif et éventuellement plus de pathogénicité. Donc j'insiste là-dessus parce que on ne peut honnêtement pas échapper à cette possibilité. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans la bronchite aiguë du poulet à coronavirus, où c'est extrêmement difficile d'éviter la survenue de variants, dont certains d'ailleurs sont plus que des mutations, sont des recombinaisons géniques entre différents types de coronavirus. Donc une versatilité qui laisse quand même un petit peu inquiet et qui, si on restait sur une rythmicité endémique à peu près similaire à ce qu'on voit avec la grippe, à la suite de la grippe espagnole et jusqu'à aujourd'hui, permettrait quand même d'anticiper des cassures et des événements pandémiques un petit peu plus fréquents. Mais bon, voilà, on en est là. Alors, une endémie, ça se prépare. Ce serait bien qu'on ne recommence pas à redécouvrir l'eau tiède un mois avant que les choses n'explosent cette fois-ci. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire et qu'il faut en particulier informer, expliquer à la population de manière à éviter ces ambiguïtés qui peuvent exister entre le citoyen et l'État. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pense qu'il est urgent de réfléchir, et certains, on n'en doute pas, y réfléchissent, mais ce serait bien qu'on soit au courant. D'abord, le réajustement de la surveillance. Au niveau humain, on ne va pas pouvoir indéfiniment tester tel qu'on l'a fait ces dernières semaines ou deux derniers mois avec Omicron. C'est très difficile, ça coûte très cher, c'est épuisant pour les personnels, en particulier les pharmaciens. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait de ces données ? Au fond, elles ne sont pas faites sur la base d'une étude prospective, structurée, donc il est difficile d'en tirer des données épidémiologiques extrêmement importantes et véritablement utiles pour gérer la politique à venir. Donc il faut vraiment qu'on mette en place des études extrêmement ciblées, prospectives, sur des populations, par exemple des populations à risque, qu'on appelle les super spreaders, les gens qui sont dans des conditions à disperser le virus assez facilement, ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des endroits où il y a plus facilement de transport de virus et d'échange de virus. Il y a toute une réflexion sur l'organisation de cadrage épidémiologique de cette période endémique qui me semble extrêmement importante à réfléchir le plus rapidement possible, sans parler de la surveillance éventuelle de réservoirs animaux. Et ça, ça souligne l'importance de cette notion d'une seule santé qui est finalement l'unicité du monde humain et de médecine humaine et vétérinaire. Donc tout ça est à prendre en charge assez rapidement. Le réajustement des mesures barrières, alors ça, c'était pris en main par l'État. Il faut sans doute relâcher, effectivement, c'est pas vivable indéfiniment, ces mesures barrières telles qu'on les subit. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut surtout pas commencer à inciter à ne plus utiliser le masque, parce que le masque est un instrument qui peut être très utile et très flexible, finalement, pour mettre dans des zones à risque. Je veux dire, la population, elle sait maintenant comment se transmet le virus. Elle est capable de comprendre qu'il y a des zones où il faut continuer à mettre un masque, dans les transports, probablement encore de façon relativement prolongée, quand on rentre dans une zone avec une forte densité de population, quand on rentre dans la saison d'hiver où on sait qu'il y a une saisonnalité plus propice au virus. Je pense qu'il faut, dans la communication, il faut pas du blanc ou du noir. Il faut expliquer, il faut mettre des nuances et il faut que les gens comprennent la nécessité de garder tout de même cette notion de mesure barrière dans la tête. Il va y avoir la place des antiviraux qui arrive progressivement, uniquement pour les personnes les plus fragiles, bien entendu, ça va permettre de gérer la pandémie, mais éventuellement, est-ce qu'il y aura des indications plus larges ? Il va falloir le définir rapidement, sinon les médecins vont être submergés de demandes plus ou moins pertinentes. Et puis, il va y avoir l'ajustement et la consolidation de la politique vaccinale, parce que la vaccination, ça a été et ça restera le pilier incontournable du contrôle maintenant de la période endémique. Alors, juste un mot pour terminer sur les vaccins. J'ai tous entendu parler des deux vaccins vedettes qui ont permis finalement de prendre en charge très très rapidement cette pandémie, à peine un an, le vaccin ARN messager et les vaccins adénovirus recombinants. Je voudrais dire tout de suite que, et je l'ai écrit en majuscule, ils ont préservé nos hôpitaux, ils ont préservé nos systèmes de santé, leur personnel. Et ils ont sauvé, d'après l'OMS, au moins 500 000 personnes en Europe. Alors, stop le vaccine bashing. Sans imaginer où on serait aujourd'hui sans la vaccination. Alors, ils ont un avantage, bien sûr, c'est le développement rapide, la génération de titres d'anticorps élevés, et à peu près identique à ce que fait l'infection naturelle, parfois même supérieure. Et puis, finalement, le vaccin ARN messager, en tout cas dans nos régions, s'est imposé parce qu'il est très bien toléré, en général, et parce qu'il est un petit peu plus efficace que l'autre. Donc, il y a eu une espèce de sélection, c'est comme les variants. Hein. C'est le variant qui a le plus réussi. Alors, il a un inconvénient, c'est la nécessité de congélation. Donc ça, pour les pays du Sud, c'est pas idéal, mais je pense qu'avec, éventuellement, à terme, la lyophilisation, ça s'arrangera. Alors, il a quelques petites fragilités, en particulier la durée de la mémoire immunitaire qu'il induit est relativement courte, et vous l'avez vu, expérimentée, si je puis dire, puisqu'il a fallu faire des rappels. Peut-être avec un troisième rappel, on aura une accentuation de la durée mais de cette immunité. En fait, c'est un problème d'induction de ce qu'on appelle des lymphocytes B mémoire. Le deuxième petit inconvénient, c'est qu'il n'immunise pas au niveau muqueux, c'est normal, on immunise au niveau systémique, donc cette immunité muqueuse qui se met en place quand on a une infection locale ou quand on a une vaccination au niveau de la muqueuse, elle n'existe pas, et c'est ce qui explique au fond que ces vaccins sont des très bons vaccins pour et éliminer le symptôme grave, parce que c'est des symptômes systémiques, c'est au niveau des poumons grossièrement que ça se passe, mais ont du mal à bloquer la circulation parce qu'il n'y a pas une immunité muqueuse qui neutralise le virus à l'endroit où il se développe initialement dans le nasopharynx. Alors quand je disais qu'il faut clarifier les objectifs, il faut qu'on se mette d'accord tous sur ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut protéger contre la maladie, c'est-à-dire éviter les formes graves qui nécessitent l'hospitalisation? Avec les vaccins actuels, pas de problème, ça marche très bien, et c'est ça qui a sauvé finalement le système et nos concitoyens, comme je l'ai dit. Mais il faut savoir que du fait de cette faible protection contre la circulation, surtout si on a des variants successifs, il faudra accepter de vivre avec le virus parce qu'il va continuer à circuler, c'est un peu comme la rougeole. Donc c'est un modèle ici qu'on revoira tout de suite après. Le fait que le virus circule, j'y reviens, mais on l'a déjà dit, ça met en risque effectivement de voir apparaître des variants. Alors moins il circulera, moins il y aura de variants, parce que si vous prenez la masse de virus sur la planète, bien sûr, ça fait beaucoup de virus, et donc beaucoup de risques de sortie de variants qui sont sélectionnés. Si vous réduisez cette masse, vous en aurez moins. Donc il faut garder vraiment le pied sur la vaccination, parce que c'est grâce à ça qu'on y arrivera finalement. Et probablement, à terme, l'obligation de faire des rappels, peut-être annuels, comme ça a été le cas, c'est le cas pour la grippe, et éventuellement de réajuster le vaccin à un variant qui aurait trop dérivé sur le plan immunologique. Se souvenir qu'il y a seulement 5% des populations des régions défavorisées qui ne sont pas encore vaccinées, donc ça rend toute hypothèse d'aller plus loin à ce stade difficile. Et voilà, il faut bâtir avec ces pays et leurs autorités sanitaires un modèle adapté de vaccination. Alors, est-ce qu'on peut être plus ambitieux? Est-ce qu'on peut éliminer Covid-19? Alors, vous oubliez l'éradication. Je pense que ce que je vous ai raconté sur la variole vous montre que c'est absolument impossible à faire pour la Covid-19. On est plus, à la limite, dans une situation qui est proche de la rougeole, telle que je vous l'ai décrite déjà, et avec quand même une faiblesse, c'est que le vaccin contre la rougeole est extrêmement efficace. C'est un vaccin qui protège à la fois au niveau systémique, qui donne une très très bonne réponse humorale, une très très bonne réponse cellulaire, qui donne une bonne mémoire immunitaire, puisque vous faites une vaccination, c'est pour la vie. Donc, on ne peut pas encore attendre de nos vaccins Covid, quel que soit le bien fou qu'ils aient pu faire, de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc ça, c'est peut-être d'autres vaccins qui vont arriver. Moi, je crois beaucoup dans les vaccins protéines purifiées et adjuvants, qui font des titres d'anticorps très élevés, qui vont peut-être permettre d'ailleurs de faire transuder ces anticorps IgG au niveau de la muqueuse et de bloquer aussi la circulation virale. On va voir sans doute se modifier les profils, mais reste néanmoins que ces deux vaccins, en particulier mRNA, sont formidables parce que, au fond, ils permettent très rapidement de se retourner en cas de changement de situation antigénique et de faire un nouveau vaccin. Donc voilà, on est à peu près là. Une petite note optimiste quand même pour terminer, c'est que peut-être notre niveau très élevé de vaccination, plus Omicron, qui a quand même considérablement circulé ces derniers mois, vont permettre, au fond, d'obtenir cet effet éventuellement d'un vaccin nasal qu'on pourrait espérer associer avec ce vaccin systémique. Tout ça reste un petit peu dans les limbes. Je voudrais insister aussi à titre personnel sur le caractère indispensable de vacciner les enfants, les jeunes enfants. On ne les a pas vaccinés quasiment jusqu'à présent. Ce n'est pas bien. On risque de conforter un réservoir pédiatrique qui peut à terme dériver vers des souches qui sont un peu plus pathogènes. On voit déjà qu'il y a un peu plus de ces fameux syndromes inflammatoires chez les enfants par rapport au début de la pandémie. Et puis, ça permettrait de simplifier et de calmer un petit peu ce bazar scolaire qu'on a pu connaître ces dernières semaines ou ces derniers mois. Donc je pense qu'il faut vacciner les enfants et, encore une fois, être extrêmement soigneux dans la vaccination des personnes immunodéprimées. Voilà, donc on peut quand même terminer sur une note optimiste. On est rentré, je pense en tout cas dans nos régions, dans cette transition entre la pandémie et l'endémie, mais il faut qu'on apprenne à vivre avec l'endémie. Et je voulais juste, dans ma dernière diapositive, vous dire que j'ai finalement exprimé des doutes, quelques incertitudes. Mais j'ai au moins une certitude dans tout ça, c'est que le monde d'avant, on ne le reverra pas. Et je pense que cette caricature dit tout ce que je pense de la situation. Et je me dis que c'était assez intéressant de passer en grec de pandémos à polémos. Voilà, je vous remercie de votre attention.